Bonjour à toutes et à tous. Lorsque j'ai commencé à enseigner à l'Université de Lausanne au début de ce siècle, les formations destinées à un public non académique se plaçaient sous la formule suivante: l'uni vers cité. Le mot université était alors décortiqué et la syllabe centrale vers servait de préposition, indiquant un mouvement, sans doute l'uni plutôt en haut, vers la cité plutôt en bas. Les experts des savoirs spécialisés devaient alors simplifier leurs recherches pour les diffuser à un large public. Il fallait vulgariser et les premières médiations ressemblaient au fait de mettre les mains dans le cambouis. Il s'agissait malgré tout de faire un effort pour communiquer ces recherches au plus grand nombre, en supposant que le format de ma thèse en 180 000 secondes ne serait donc jamais suffisant. Les résultats des colloques devaient être transmis à des intermédiaires, qui eux-mêmes diffuseraient ces savoirs à d'autres apprenants, en espérant qu'un jour, au bout de la chaîne de la transmission, cela atteindrait le grand public. C'était un système pyramidal qui fonctionnait, qui avait ses vertus et qui s'est mis à vaciller. Le monde de l'expertise lui-même, dans les médias, dans l'enseignement, dans la société, a été remis en question, au moment même où il y avait une plus grande connectivité entre les individus, parfois pour le meilleur et aussi pour le pire. Dans ce système pyramidal ancien, donc, les experts passaient pour des gens forcément austères, hors de la réalité, en lien avec d'autres universités, uniquement concentrés sur des travaux de pointe, forcément incompréhensibles, que quelques collègues et quelques doctorants pourraient peut-être lire un jour. Et c'est dans ce contexte que j'ai écrit ma thèse de 540 pages, qui, malgré un titre avenant, Le Pacte lyrique, portant toujours d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui, cachait une écriture propre à décourager toute âme profane d'aller au-delà de la page 25. Et j'avoue ici n'avoir jamais offert ma thèse à des amis sans l'accompagner d'un petit cachet d'aspirine. Parallèlement, la poésie subissait une autre crise, encore plus profonde. Elle passait pour une production élitiste, incommunicable et incompréhensible, forcément impossible à faire passer auprès d'un grand public. Et pour le dire simplement, lorsque je voulais offrir cette fois non pas ma thèse, mais mon premier recueil de poèmes à des amis, il me fallait bien plus que des petits cachets d'aspirine, mais une très longue ordonnance. C'était en 2006, j'avais 33 ans, j'étais condamné à une vie de solitude, en portant ma thèse et mon premier recueil comme une croix sur un interminable chemin, celui de la passion de la poésie. Heureusement, les temps ont changé. Bienvenue aux Assises de la poésie, à la poésie aujourd'hui, qui inclut aussi Bob Dylan. Et ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi le très conservateur jury du prix Nobel de littérature. Et personnellement, je trouve que cela est bénéfique. On se détend, et parfois, en se détendant, on réfléchit mieux aussi. On parle simplement de ce que tout le monde aime, sans démagogie, mais parce que c'est la réalité aussi de la poésie dans la société. Du Bob Dylan avec du Baudelaire ou du Mallarmé, de l'Emily Dickinson avec de la performance. Et il est fascinant de pouvoir relier les formes de poésie de notre temps à d'autres époques, à d'autres cultures, des œuvres très complexes à des pratiques courantes de la poésie, qui ne sont pas uniquement littéraires ou dans les livres. On avait évoqué le slam, on peut parler aussi du rap. Aujourd'hui, la poésie est souvent en multimédia, numérique, en ligne, mais toujours aussi vive dans les livres. J'en veux pour preuve le lancement de l'anthologie vidéo de la poésie romande produite par l'Université de Lausanne et qui sera en partie diffusée dès samedi par le quotidien Le Temps, donc dès samedi prochain. Ici, l'université propose un nouveau format d'anthologie pour mettre en contact une population et ses poètes contemporains, tout en l'ouvrant au monde, aux écoles aussi, à la diffusion plus large, puisqu'elle sera en ligne et d'accès gratuit. Il n'est pas nécessaire d'attendre un hypothétique recueil de poèmes de Joël Dicker, ou un prochain volume de Michel Houellebecq, ou d'un quelconque romancier à grand tirage pour que la poésie semble de nouveau attrayante et nouvelle. Nous n'avons pas besoin d'eux, mais peut-être qu'eux ont besoin de nous. Ce qui se passe ici en lien avec les assises, avec le printemps de la poésie, montre au contraire que nous ne sommes pas obligés de passer par le star system de l'industrie littéraire bâtie dans les capitales du livre, car nous avons bien plus que 50 nuances, bien plus de combinaisons, de couleurs, de notes avec les quelques voyelles et les quelques consonnes qui nous sont données pour explorer la réalité. Ce qui se passe en poésie préfigure bien d'autres changements, dans le monde du livre, de la culture, mais aussi dans notre société. Comment la poésie s'intègre-t-elle à la mondialisation? Comment investit-elle de nouveaux supports numériques? Quels sont les moyens de transmettre? Quelles sont les nouvelles formes de participation aujourd'hui? C'est l'horizon dans lequel s'inscrivent ces assises et nos actions plus largement autour de la poésie, avec les nouveaux défis, les nouvelles organisations de notre temps. La presse est peut-être en crise, l'enseignement est peut-être en crise, la culture est en crise, tout est en crise, la poésie l'était, me semble-t-il aussi, mais elle se présente désormais, peut-être, fièrement, hors de la crise exquise qu'elle s'est elle-même tissée à la fin du XIXe siècle pour se faire art absolu, peut-être contre les autres formes de discours. Nous avons trop entendu des spécialistes dire que la poésie est le plus haut et qu'elle est par conséquent inatteignable. Pourquoi le plus haut serait inatteignable? En une quinzaine d'années, la distribution des savoirs dans le monde du papier s'est considérablement transformée et la poésie a toujours su s'adapter aux nouveaux supports. Et c'est finalement peut-être une chance que la sortie d'un livre de poèmes ne suffise plus à créer un événement, car il a suffi à créer aussi d'autres modèles. Ces assises liées à la troisième édition donc, du Printemps de la Poésie montrent plusieurs choses. Après des années de travail de montée constante, nous sommes parvenus à un réseau poésie visible, actif, connecté, et qui peut justement faire autre chose que de ressasser un passé glorieux, peut-être dans la déploration élégiaque. Nous avons pu montrer un vrai renouveau, comme cela a été écrit encore dans deux quotidiens lausannois et genevois en début de semaine. Le réseau a d'abord consisté à recenser les acteurs et les actions par les événements et les publications en 2011 sur le site poésieromande.ch. Et cette année, le réseau devient davantage que la somme de ses acteurs, hein, avec plus de 120 événements pour le printemps, avec justement toute une partie incarnée de la poésie, mais aussi elle permet un espace de réflexivité, ce à quoi servent ces assises. Ces assises vont donc conduire à un plan politique et global sur la poésie, en formation, en culture et en recherche. Avec ce réseau synchronisé, incarné et réflexif, nous sortons du culte des personnalités, des sauveurs venus d'en haut et des modèles romantiques. Nous montrons au contraire combien la poésie se fait avec une multiplicité d'acteurs, de gens qui agissent au quotidien avec ce mot, et il n'est peut-être plus utile de rendre un poète visible au détriment de tous les autres, de tout ce qui le porte, c'est-à-dire d'une époque, d'institution, d'une culture, d'éditeur, de traducteur, de chercheur, d'enseignant. Penser à la transmission de la poésie, c'est s'intéresser à valoriser le contact, comme le disait José Ticon, le contact par des médiations généralisées, réinstaurer un corps à corps, une participation forte. La poésie devient alors une ressource qui se tient au bout des mots, au bout de la compréhension, comme ce qui nous relie, même au bout de la nuit. Quand nous sommes les porteurs de cette énergie, alors les barrières tombent et beaucoup de gens commencent non seulement à trouver cela intéressant, mais comprennent que ça leur parle vraiment. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des experts pour dire « ça, c'est important ». Les gens le saisissent d'eux-mêmes quand ils ont l'opportunité d'expérimenter. Il suffit donc de lancer une étincelle, un contact, pour que ce monde parfois sec se mette à crépiter et fasse monter les flammes jusqu'au ciel. Il me semble que les spécialistes de poésie à l'université ne sont plus alors là simplement pour élire le poète de demain avec des méthodes importées des sciences humaines, mais qu'ils deviennent des acteurs capables d'articuler la recherche internationale, la création, les études sur le terrain, l'ingénierie pour éclairer l'horizon d'une part d'incarnation. L'université offre alors les moyens de sortir de l'université pour aller vers une unicité, unicité de la poésie, d'une cité dynamisée par les savoirs, par la créativité, par les innovations, par l'envie de croître et de s'élever ensemble. Elle est ancrée dans un territoire tout en se positionnant au sein du monde de manière à la fois internationale et ancrée. Et plutôt que de sous-entendre que nous savons en tant qu'experts et que les autres ne savent pas, elle peut aussi proposer d'élaborer des savoirs ensemble, de mieux comprendre ce que sont les pratiques, les valeurs, les relations à la poésie dans notre société. Cette unicité me semble désormais plus intéressante que le surplomb, le face-à-face, parfois méfiant, d'une université. Ainsi, plutôt que de considérer que la recherche se fait hors sol, uniquement dans des bureaux, l'unicité pourrait permettre aussi de détailler, de cartographier des espaces donnés. Le Festival du Printemps de la Poésie n'est pas qu'un festival, et cette réflexion dans les Assises n'est pas qu'une réflexion comme un colloque. C'est un formidable outil aussi pour comprendre qui fait quoi, avec quels instruments, avec quels investissements, selon quelles tendances. Et nous créons, nous collectons ces données ensemble pour les restituer par des études. En ce sens, tout devient intermédiation, médiation généralisée dans un va-et-vient constant. Et ce que montre aussi cette expérience, c'est que l'université peut servir d'articulation d'un réseau, du réseau poésie, parce qu'elle ne tient pas à valoriser un groupe au détriment de l'autre, une génération plutôt que l'autre, ou encore un support face à d'autres. Elle travaille sur la manière de distribuer de l'attention, donc de la valeur, de façon plus équitable et en articulant le meilleur de chaque pratique. Elle peut alors laisser un espace se construire comme une constellation, comme un organisme ou comme un réseau, peu importe les métaphores. Un espace en tout cas qui s'auto-alimente et montre plutôt que les conflits pour se dominer et dominer les plus faibles, comment des nouvelles modalités de collaboration peuvent ouvrir des reconnaissances nettement plus larges, adaptées aux mutations d'une époque. Chaque année, depuis le début du Printemps de la Poésie, je dis que j'ai la chance de travailler dans une université qui soutient la poésie et qui a pour slogan « le savoir vivant », auquel notre rectrice actuelle a ajouté la formule de « laboratoire ouvert ». Aller vers l'unicité de la poésie, c'est peut-être cette combinaison, celle d'un laboratoire poétique vivant qui fait circuler les savoirs, mène un travail précis sur le terrain et propose des innovations qui s'enracinent. C'est ce que mérite la Suisse et cette vallée enchantée qui est à la fois le berceau du romantisme européen, mais aussi un des lieux les plus compétitifs du monde, avec de puissantes institutions scientifiques, culturelles et de création. C'est aussi ce que méritent de nombreuses régions du monde. Et dites-vous que si c'est possible pour la poésie en Suisse, qui passait pour le genre le plus désuet, à l'écart des innovations et parfois le plus rétrograde du monde culturel, et surtout pour le genre incommunicable par excellence, alors tout vraiment devient possible. Voilà. Je crois avoir utilisé les 800 secondes qui m'étaient imparties. Il ne me reste plus qu'à vous remercier.